Elle en pense quoi ta sœur sur Radio Broadway.net. Avec Sly et son orchestre.
Bonjour à tous et bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle émission, un nouvel épisode de « L'en pense quoi ta sœur ». Aujourd'hui, on a la chance d'être accueillis par Sabrina et Emeline pour leur association, et voilà, ça commence déjà pas facile à dire, idéographique. On va pouvoir en discuter un petit peu avec eux, ils vont nous expliquer un peu en quoi ça consiste. Et on est dans les locaux de la Maison des économies et sociales, c'est ça hein,
de l'économie sociale et solidaire.
Ah bah oui, bah, pourtant je l'ai noté, je me plante quand même. Donc merci Iris.
Comme d'habitude,
bah, le début est toujours compliqué. Hein, je suis un bon vieux diesel. Donc nous sommes à Trémel, donc dans la ville de Trémel.
Dans les Côtes d'Armor.
Dans les Côtes d'Armor, dans le 22, il faut le préciser. Et donc pour la première fois, on est parti un petit peu en excursion, un petit peu en voyage avec toute l'équipe pour aller faire un reportage en direct là-bas pour qu'on puisse nous montrer un peu en quoi ça consiste et en quoi ça ressemble. Et justement, on va commencer par la petite visite des locaux de l'association en compagnie de Sabrina qui va nous faire la visite.
Clap.
Et donc c'est parti, nous sommes en direct de la belle ville, jolie ville de Trémel, c'est bien ça, bonjour. Avec, qu'est-ce qu'on a entendu derrière, c'est un mouton?
Ce sont des moutons.
Ah, des moutons. Et donc on est juste devant la maison de l'économie sociale et solidaire de Trémel, en compagnie de Sabrina. Bonjour Sabrina.
Bonjour.
Ça va?
Ça va bien.
Merci de nous accueillir au bord de la route en un premier temps déjà. En plus il fait beau, il pleut pas, on a de la chance. Et donc, comme on est sur RBG, on va essayer quand même de le dire en breton. Tin An Ekomies, je suis désolé pour l'accent. Sokial A Kengret. Bon, bah alors j'espère, ça doit dire ça, hein, ça doit dire maison de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est vraiment de breton, on est dedans. Et en plus, tu vas pouvoir nous faire la visite de cette maison.
Tout à fait.
Tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu comment ça se passe. On y va, on te suit?
On y va.
Allez, c'est parti. Donc là, on se rapproche de la porte. Ah oui, donc il y a le nom déjà, idéographique. D'accord, ça c'est ton association, c'est ça?
C'est l'association qui est hébergée par la Maison de l'économie sociale et solidaire et par la municipalité, je vais vous expliquer.
D'accord.
Ça.
D'accord, oh, oui, alors, dis donc.
Donc là en fait on rentre donc, dans l'ancienne mairie de Trémel, qui a été, c'est tout neuf,
c'est
exactement.
C'est l'ancienne mairie, ouais. Ah, les couleurs,
voilà,
ouais.
Et donc la mairie de Trémel a décidé de rénover l'ensemble de la bâtisse pour pouvoir accueillir l'association idéographique, mais aussi la maison de l'économie sociale et solidaire.
Ah oui, d'accord, il n'y a pas que idéographique.
Alors, c'est idéographique qui occupe majoritairement les locaux.
Bah oui, parce que dès qu'on arrive...
Mais nous, on accueille, en fait, là, vous voyez qu'il y a une table avec des livres, comme un petit atelier d'origami,
ouais.
Avec des papiers, des règles, enfin, vraiment un atelier un peu d'art plastique.
Un extincteur.
Mais c'est vrai qu'ici se déroulent aussi les permanences de la maison de l'économie sociale et solidaire.
Ah d'accord, donc vous partagez tout ça ensemble quoi.
Ouais, exactement. Et okay. Notamment, ils sont sur un programme ruralité, où ils accueillent les habitants de la commune pour comprendre un peu mieux leurs besoins. Et donc, ça se passe en fait dans ces locaux.
D'accord. Et là, on est sur c'est quoi? C'est du pliage? C'est du...
Alors oui, en effet, on a toute une équipe de bénévoles qui nous aident à travailler sur nos éditions et nos outils pédagogiques. Donc là, en l'occurrence, notre édition et l'outil pédagogique qu'on est en train de diffuser et d'éditer est basé à partir d'origami.
D'accord. Voilà. On en parlera après, en effet.
Ouais, on en parlera. Visite, hein. Oui, on continue la visite. Donc
allez,
là, on a deux pièces.
Deux pièces.
Voilà,
hein.
Deux petites pièces.
D'accord.
Qui nous servent, voilà, soit de permanence.
On se rapproche.
Soit d'atelier pour les bénévoles.
Ah oui, d'accord. Il y a encore un autre atelier,
ouais,
ici.
Ouais, voilà. Il y a deux petits espaces.
Ok.
Et qui accueilleront aussi la poste à qui est à côté, qui va être en travaux bientôt, où ils vont en fait rénover la poste, ils vont faire un point pain et épicerie, une grande bibliothèque.
Ah.
Et donc nous, on accueillera la poste pendant les travaux.
D'accord,
donc ils seront logés dans ces deux petits bureaux.
D'accord, tu pourras récupérer tes courriers plus facilement et plus rapidement. C'est pas bête.
Tout à fait.
Fallait y penser. Maison Solidarité, en effet. On continue?
On continue.
Donc là, on était à la deuxième pièce.
On était
là,
à la deuxième pièce.
Ouais, c'est super, c'est tout neuf en fait. Hein.
Oui, voilà, c'est tout neuf. Wow. Ouais, c'est super.
Voilà. C'est super bien fait.
C'est super et c'était aussi super pour les Trémélois,
ouais.
Qui ont. Ça faisait 20 ans que ce bâtiment n'était pas du tout habité. Et donc, on a fait une inauguration et c'était vraiment chouette parce que tous les Trémélois sont venus. Beaucoup se sont mariés ici, ont vraiment vécu quand la mairie. était en activité ici.
Ouais, fait partie donc, de l'histoire de la ville, quoi.
Ouais. Oui, je pense. Content qu'on rénove cet endroit et on le fasse vivre.
Je vois que c'est marqué avec le soutien de la Bretagne, donc faut le préciser quand même, c'est bien déjà. On en reparlera un peu plus tard,
parce
que je le vois maintenant. Mais ah oui, et donc là, ouh, attention, on arrive à un escalier.
Exactement.
Techniquement. Et quel escalier ?
Oh oui, je dis donc.
Quel escalier, ouais. Quel escalier qu'on a voilà, poncé pour retrouver le bois d'origine et qui fait.
On se frotte les pieds ou pas ? Allez, parce qu'on est poli. On y va, c'est parti.
Ouais.
Rhys et puis professeur,
on se frotte les pieds.
Merci. Bon. Non, un peu de respect, hein. C'est tout neuf. Hein.
En tout cas, c'est chouette, hein. J'aime bien.
C'est la première fois qu'on se frotte les pieds.
Alors, on arrive.
Là, on est en train de monter un deuxième étage. Hein. Donc, hop, on arrive en haut. Petite étagère. Hein,
petite étagère, ouais. On arrive donc dans le sas là où... de l'association, vraiment.
Tu fais du cognac ?
Comment ?
Vous faites du cognac aussi ?
On fait pas
c'est
de cognac.
C'est solidaire aussi, d'accord, donc c'est un petit carton, c'est pour la blague.
Non, on fait pas de cognac, nous on fait que du papier.
C'est déjà pas mal.
Dommage.
Et donc là, on arrive à la troisième pièce.
On arrive donc au bureau principal d'Idéographique.
D'accord.
Que je n'ai pas rangé.
Oh là, c'est pas rangé. Ah oui, c'est une grande pièce.
Ouais, donc ça, c'était l'ancienne salle de conseil.
D'accord.
Qui donc a été entièrement restaurée. Et où on a donc entièrement poncé le parquet pour retrouver le parquet d'origine.
Moi, je suis juste très content parce que je vois des poules, des moutons et même des petits moutons.
Ah oui, tiens, j'avais pas vu. Ah ouais, ah, mais sympa, le cadre est vraiment sympa. Et donc, ouais, c'est vraiment une pièce de travail et de vie, en fait. Il y a de tout, si je peux me permettre.
Oui, donc là on est dans une grande pièce assez lumineuse avec des grandes baies vitrées.
Ouais, on va se rapprocher des baies vitrées, justement.
Ouais, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est plutôt agréable puisque de notre fenêtre on a vu sur une petite ferme où on a des moutons, des poules, des bébés moutons.
Des bébés moutons.
Et même un chardonneret élégant qui vient de se poser sur le grillage. Voilà.
Alors attends, moi je le vois pas. C'est quoi ça?
Ah, il vient de s'envoler.
Non,
voilà.
C'était pas un pinson, me semble-t-il.
Non, déjà, d'accord. C'était un oiseau. Moi je crois que c'était pas un oiseau.
Ah, c'est peut-être un pinson.
Je ne savais pas que c'était un oiseau.
Donc, ça c'est plutôt agréable. On a le soleil couchant. Wow. C'est quand même très lumineux ici.
Donc, tu restes travailler
et
tard
puis,
le soir.
On a donc comment?
Tu restes travailler tard le soir pour profiter du. Non.
Ah oui, moi je reste travailler tard. Ouais.
D'accord. C'est quoi les horaires? Enfin, faut donner une notion un peu aux auditeurs.
C'est alors, quoi, les horaires, les types.
Ouais, parce qu'il y en a.
Donc, normalement, on est censé travailler. Donc, moi, j'arrive à peu près vers 8h, 8h30.
Ouais.
Et je travaille à peu près vers 18h, 18h30.
D'accord. Ouais, quand le soleil commence à se coucher, ça va être très agréable, en effet.
Ouais.
Ça, je crois que ce sont les horaires officiels. Mais enfin, il y a des horaires
officieux.
Absolument.
D'accord.
Bon, après, en fait...
Sans commentaire.
En fait, donc on est deux salariés à l'association.
Ah oui, d'accord, parce que j'ai mis deux sièges.
On est deux salariés et en fait, on a une bénévole qui vient régulièrement s'occuper de toute la saisie comptable et de la mise à jour des actualités sur le site internet.
D'accord, ah oui.
Donc super bénévole.
On en parlera après au niveau du site, de toutes les informations, etc. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et d'accord, ah oui, c'est carrément le bâtiment quasiment fait pour vous, quoi.
C'est le bâtiment fait pour nous, exactement.
Waouh.
Et donc, ça nous permet aussi d'être un bâtiment assez accueillant. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est important pour les Trémélois, c'est important pour les bénévoles aussi d'avoir un lieu assez convivial.
Et ils viennent de même, en fait, ils viennent vous voir.
Ils viennent pas encore tout à fait de même, mais on a de temps en temps du passage.
Ah, donc c'est quand même. C'est bien, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est bien, ça. Et donc, on va prendre le temps un petit peu de s'installer et de discuter un petit peu un peu plus de l'association, de ce que vous faites exactement, c'est quoi vos projets.
Oui.
Ça vous tente ? On est parti ?
Ça me tente, c'est parti.
À tout de suite. Donc, de retour dans les locaux de l'association Idéographique. Alors, en présence de Sabrina et Emeline, on va déjà vous présenter. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir.
Merci à vous de venir jusqu'ici.
Oui, on s'est déplacé une petite heure et demie pour venir vous voir dans cette belle maison que vous nous avez fait visiter. Sabrina, là vous nous recevez maintenant, on est attablé autour d'une table, tout l'orchestre est là, le professeur.
Bonjour.
Bonjour.
Emeline.
Bonjour.
Bonjour Emeline, ça va?
Oui.
Bienvenue, enfin bienvenue non, merci de nous recevoir plutôt, parce que c'est plutôt
on
la
on est chez vous aujourd'hui.
On est chez vous, merci de nous recevoir en ce dimanche.
Quelle émotion.
Oui, c'est ça exactement, je suis un petit peu, bah oui, voilà, je suis plus dans les studios et voilà, je suis un petit peu, oula, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, merci pour le café, très bon, hein, en promettant. On va parler un petit peu de votre association. Alors dites-moi, c'est quoi l'association idéographique?
Alors, l'association idéographique, c'est une association qui en fait a trois axes de travail principaux, qui est l'accès à l'information, l'accès à l'apprentissage et l'accès à la lecture.
D'accord.
Donc nous, on travaille essentiellement pour les professionnels. Donc, dans l'accès à l'information, on va faire en sorte, comme un graphiste ou des chargés de communication, une agence de com, travailler sur tout ce qui est outils de communication pour le rendre accessible au plus grand nombre, pour des personnes qui sont en difficulté de lecture ou de compréhension.
D'accord.
D'accord. Donc on va pouvoir travailler aussi bien sur une carte de restaurant, des plaquettes, ou là par exemple sur le manoir de Kernot à Mélac, où on retravaille l'ensemble de leurs panneaux d'exposition, la future exposition qui va ouvrir fin avril.
C'est-à-dire, c'est quoi exactement le travail?
Le travail, c'est que les panneaux d'exposition traitent sur la nuit et sont difficiles à comprendre, même pour des personnes qui n'ont pas forcément de difficultés.
D'accord.
Donc on retravaille en fait les panneaux, on retravaille des illustrations, on reformule les textes pour qu'ils soient plus compréhensibles pour des personnes qui ont une basse vision et qui ont aussi des difficultés de compréhension.
D'accord. Et ça, c'est les professionnels du tourisme qui viennent vous voir, qui font appel
à
vos services?
Alors, ça peut être vraiment toutes sortes de structures.
D'accord.
On a travaillé pour un restaurant où on a clarifié leur carte de restaurant, on l'a rendue plus... on l'a réorganisée pour qu'elle soit logique dans l'ordre du repas, par exemple. On a fait en sorte que des personnes âgées qui ont une vue qui baisse puissent lire correctement la carte avec un contraste correct. Donc ça peut être tout type de structure qui accueille du public et qui travaille avec des publics, en fait. Donc de l'entreprise, la structure du tourisme, de la culture, même tout type de structure, en fait, qui a un outil de communication qui est dédié à un public.
Et vous recevez des gens ici? Il y a une communauté qui s'est créée? Il y a des gens qui passent vous voir, qui s'intéressent?
Alors, pour le moment, on ne reçoit pas de personnes ici. À terme, on aimerait bien organiser des ateliers et sauf vous, bien évidemment.
Et les bénévoles. Et,
alors voilà, donc j'y viens. Bénévoles. Les bénévoles, voilà. Donc à terme, on aimerait bien qu'il y ait des ateliers et des formations qui se passent ici. Et puis, les bénévoles sont quand même très présents et viennent régulièrement nous donner un coup de main. Notamment sur la partie accès à l'apprentissage et accès à la lecture.
D'accord. Alors, vous êtes combien de bénévoles ici?
Il y a une quinzaine de bénévoles.
Ah oui, quand même.
15-20. Ouais.
15-20
15-20 petites mains, quoi.
15-20 petites mains. Ah, cette phrase est bizarre. Ils ont que des petites mains, c'est ça?
Ouais, ils ont des petites mains.
D'accord, 15-20 personnes.
Alors, tu parlais de trois axes, c'est ça, pour idéographique? Ouais. On en était au premier, là.
On était au premier, ouais. Donc, l'axe apprentissage. Donc, on est toujours dans la même démarche, rendre accessibles les apprentissages pour les publics qui sont en difficulté d'apprentissage. Voilà. Donc nous, on conçoit des outils pédagogiques et on propose des ateliers pour faciliter l'apprentissage.
Et ça, vous vous déplacez dans les écoles ou c'est eux qui viennent à vous?
Alors,
que je comprenne. Hein,
ouais, bien sûr. Donc l'outil pédagogique qu'on est en train d'éditer, d'ailleurs, on aura peut-être l'occasion d'en reparler plus précisément, mais on va lancer une campagne de financement courant avril pour pouvoir éditer cette mallette sur laquelle on travaille depuis 2015 maintenant.
Ah oui, quand même.
Donc en dehors de l'association, mais qui a été testée longuement. Donc c'est vraiment un outil qui permet à des publics plutôt collège, en fait, collégiens, jeunes adultes, de rentrer dans l'apprentissage et dans l'apprentissage de notions scolaires.
D'accord.
Et après, on a des ateliers comme les ateliers de raisonnement logique qui sont là pour le coup des interventions directement dans les écoles ou auprès des publics, hein, qui peut être, on dit école, mais c'est collégiens, jeunes adultes aussi, et qui ont pour objectif principal de remobiliser les logiques de raisonnement.
Et ça, concrètement, ça, vous vous déplacez, par exemple, on citait les collégiens, par exemple, dans un collège, vous présentez ce que vous faites exactement? C'est en accord avec les professeurs? C'est dans une démarche pédagogique?
Alors, concernant les établissements avec lesquels on travaille, on essaye de rentrer non pas de faire juste une seule intervention, mais de rentrer dans les programmes pédagogiques.
D'accord, sous long terme.
Voilà, sur du long terme. Donc en général, quand on travaille avec eux, on présente notre travail auprès des équipes pédagogiques, donc de l'ensemble des équipes pédagogiques. Mmh. Et puis après, on définit un groupe de travail et une durée de travail avec eux.
D'accord.
Et les objectifs. Et de toute manière, nous, on travaille tout le temps en collaboration avec les professionnels. Donc
Vous êtes toujours en relation, oui.
Oui, oui, toujours.
Et donc ça, c'était la deuxième ligne.
Ça, c'est la deuxième ligne. Puis après, j'ai laissé la parole à ma collègue Emeline pour le troisième axe.
Donc le troisième axe, c'est l'accès à la lecture. Oui. À l'univers du livre. En fait, sur ce troisième axe, il s'est un peu créé autour d'un projet de livre jeunesse que l'association a édité en novembre.
Et qui s'appelle ?
Qui s'appelle Petite Feuille, Rêve de Grand Large.
Petite Feuille, Rêve de Grand Large.
D'accord. Voilà. Qui est un livre jeunesse.
Vous l'avez là ?
Il est là.
Ah bah, je vais le regarder. Enfin, on va essayer d'en parler un petit peu quand même.
Il est là. On va essayer.
C'est tout bleu, c'est avec tout bleu. Un titre jaune.
Un titre jaune, j'avais compris, un triton jaune, qui aucun rapport.
Un triton jaune, ça aurait peut-être.
Peut-être, c'est sur le deuxième tome, peut-être.
Voilà, je viens de vous lancer une idée.
Voilà. Oui, oui. Voilà. Ouais, parce que c'est très aquatique, en fait, hein, comme thématique.
Et donc, ah oui, d'accord, ok. Oh, la texture est sympa, j'aime bien. D'accord, et donc ça, c'est le
fameux
bouquin.
Alors, c'est intéressant, c'est le fameux bouquin, et justement, il a été conçu en pensant au maximum de personnes qui pouvaient l'avoir entre les mains, c'est-à-dire des lecteurs lambda, mais aussi des gens qui peuvent être éloignés de la lecture pour diverses raisons. Par exemple, pour des gens qui auraient des déficiences visuelles.
D'accord. Et en quoi ça va l'aider ?
Parce que c'est un livre à manipuler.
D'accord. Okay.
Il y a une histoire. Le texte est à part. Le texte existe. Il est à part.
Il est lu à côté.
En fait, okay. Il n'a pas été mis sur chaque page. C'est un livre qui permet de réaliser un origami. En fait,
chaque page
est une étape.
En fait, à chaque page, on voit ce papier jaune, brillant, plié au fur et à mesure.
Qui se plie, se déplie, se replie, se re-redéplie.
Je peux les déplier ? Alors oui. Moi, je suis très gauche, hein. Je peux casser le truc. Hein. Alors, je vais y aller
doucement.
C'est fait pour le casser ?
200 personnes ont testé.
C'est vrai ? Vous ne me connaissez pas, ça se voit.
Le 201e.
Ah, vous verrez, c'est très résistant, ça casse pas.
Il est particulier.
Voilà, exactement.
C'est notre animateur.
Et donc, ah oui, d'accord.
En fait, là, le principe, c'est que on peut avoir soi-même un petit papier jaune comme au début du livre. Donc, ce petit papier jaune n'étant autre que petite feuille.
Je vous jure, je l'ai cassé.
C'est pas cassé, c'est juste...
T'as cassé le papier.
C'est mal plié.
Non, c'est bien, c'est un concept.
Alors, je fais comme d'habitude, moi, quand c'est cassé, je passe à autre chose. Ok, voilà. Donc
Donc, à la fin, tout le monde parvient à réaliser ce petit bateau. Et donc, je parlais, par exemple, des enfants qui auraient des déficiences visuelles. Le papier, il est texturé de manière différente, ce qui permet... À des enfants qui ont des problèmes de vue ou des adultes, qu'importe, de pouvoir aussi réaliser le pliage, puisque donc, ça permet de se repérer.
De repérer le recto et le verso.
C'est ça qui leur permet d'avoir le déroulement de l'histoire. C'est ça que je comprends.
Alors, l'histoire est à la fin. Si vous allez à la fin du livre, l'histoire est à la fin. Elle est en français. Elle est transcrite en
braille. Moi, je me suis un petit peu documenté. Je t'ai vu raconter l'histoire il n'y a pas très longtemps. C'était dimanche lors d'un marché aux puces en solidarité avec les sans-papiers.
Le collectif de soutien aux sans-papiers de Lannion. Ouais.
Absolument.
Ouais.
Et donc là, tu as raconté l'histoire à un public d'enfants, dont j'étais.
Voilà.
Avec plaisir.
Parce que quand tu dis jeune public, c'est de quel âge à quel âge ?
C'est marqué sur le livre, je crois que j'ai vu, c'est jusqu'à 107 ans.
C'est ça.
Non, mais je suis pas sûr.
Donc,
j'ai vu aussi.
De 5 à 107 ans.
Oui, c'est ça.
Voilà. Ça va, je suis dans le cadre.
5 à 107 ans.
Et peut-être même que, ce sera de 0 à 107 ans bientôt parce que, voilà. Enfin, 100, en fait, on est 108, vraiment sur.
108, ça marche pas.
108, 109.
108, c'est une bagnole, ça, non?
C'est à partir de 5 ans parce qu'il y a quand même cette histoire de manipulation et de pliage. Mais après, justement, quand on présente ce livre, des petits-enfants sont aussi intéressés parce qu'il y a justement toujours dans ce souci d'accessibilité, les contrastes ont été travaillés, donc forcément... Un jeune enfant est aussi attiré par le livre, même s'il ne peut pas réaliser l'origami, bien d'accord. Évidemment.
Ah ouais, moi, j'ai appris, on était sur une très grande scène, que la grande pieuvre dont tu parlais pouvait dépasser même allègrement la taille de la scène. Quoi.
Bah, c'était 5 mètres.
Ouais. J'étais impressionné.
Ouais. Oui, parce qu'on voit des très belles illustrations de divers bestioles sous-marines. Il y a une pieuvre, oui, effectivement. Il y a plein
une pieuvre géante.
De poissons, de cétacés.
Les illustrations sont le fruit de...
De Violette Gentillot.
De Violette Gentillot.
D'accord.
Et le texte est de Isabelle Le Seigneur.
Parce que en fait, le texte, oui, en fait, ouais, merci Sabrina, je l'ai trouvé à la fin du livre, comme on me l'a dit deux fois, et je n'écoutais pas. Alors ça aussi, vous verrez, j'écoute pas. Donc du coup, il y a le texte normal, écrit, et a priori...
En français,
en effet. Ah,
donc, il existe aussi en breton et en anglais.
Absolument.
Parfait, ça.
Et il est transcrit en braille.
Et voilà, et moi je pense que j'y suis sur le...
Oui, tout à fait.
Et donc voilà, ça c'est du taf, ça, donc... Et donc, en fait, ils prennent, pour parler concrètement, ils prennent ce texte-là et ils font les deux choses en même temps ou ils prennent d'abord le livre et après ils vont le texte? Comment ils font?
Justement, en fait, c'est aussi pour ça qu'on a enlevé les textes des pages.
Ouais.
Parce que c'était assez compliqué d'associer texte, illustration, manipulation.
D'accord, donc ils se focalisent sur une chose d'abord pour passer après à la suite.
Après, il est possible que pour le tome 2, puisque le tome 2 est en cours de construction, que l'on ramène le texte en braille aussi dans les pages, mais en mode volet, pour qu'il ne soit pas perturbé quand même par le texte, par l'association texte-image-manipulation, mais quand même que le texte soit à portée de main, pas trop loin.
Voilà. D'accord, oui.
Mais c'était, en fait, on avait fait plusieurs essais, et c'était compliqué notamment d'avoir un texte, parce que le texte est assez poétique, c'est vraiment l'histoire de Petite Feuille qui part dans une aventure. Et donc c'était compliqué d'avoir ce rapport de poésie avec quelque chose de très, très technique, en fait, qui est l'origami. Donc on s'attend, quand on a un texte sous un origami, on s'attend à avoir un texte très didactique. Or là, c'est pas le cas.
Didactique.
Oui, c'est qui va indiquer en fait faire, qui va indiquer la manipulation.
Okay.
Or là, c'est pas le cas, et ça peut donc venir assez conceptuel d'avoir un texte poétique qui explique, enfin qui raconte une image assez technique.
D'accord.
Voilà. Donc nous, en fait, cette méthode là, ce pas à pas, a été développée avec des adultes en déficience psychique.
Mmh.
Et donc c'est avec eux que j'ai appris ça. C'est avec eux que j'ai découvert que cette association texte-image pouvait être vraiment compliquée.
D'accord.
Ça les bloque en fait, le fait d'avoir de l'écrit à côté de l'image, ça bloque l'histoire.
Voilà,
en fait. D'accord.
Il y a quelque chose qui...
C'est soit ça, ils n'arrivent pas à faire le rapprochement
complet
entre les deux.
Ce qu'on retrouve chez les enfants, les jeunes enfants qui sont dans l'apprentissage de la lecture, ou chez des enfants un peu plus grands qui ont des problèmes de concentration. C'est des choses qu'on retrouve chez différents publics, en fait, cette nécessité d'épurer, en fait, pour que le message passe correctement.
D'accord. Et puis, ouais, j'ai vu qu'à la fin, il y avait des petits morceaux de papier en crépon, c'est ça? Je dis pas de bêtises.
En papier craft.
Papier craft,
c'est pas la même chose.
Crépon, c'est pas pareil du tout.
Mais
pas
non,
vraiment.
J'ai jamais été doué non plus.
Tu viendras aux ateliers.
Mais oui, je viendrai.
Papier craft a deux textures, recto verso,
voilà.
On révise.
Ok, j'ai jamais.
Venant d'une papeterie
de Limoges,
voilà.
Comment une papeterie
De Limoges.
De Limoges.
Limousine donc. Mais en tout cas, je voulais juste ajouter que l'intérêt aussi de mettre le texte en dehors, ça nous a permis de facilement le traduire en anglais et en breton et le transcrire en braille, et de permettre notamment à des jeunes, ou d'ailleurs des adultes, hein, des familles qui ne parlent pas la langue du livre, et ben de pouvoir quand même accéder à l'objet livre et de rentrer dans l'imaginaire. C'était ça aussi notre objectif, c'est que certaines personnes sont en difficulté par rapport à une langue. On a aussi rencontré des grands-parents qui ne parlent pas la langue de leurs petits-enfants et qui étaient très contents de trouver ce livre parce que justement, ils pouvaient partager un temps avec leurs petits-enfants sans être bloqués par cet obstacle de la langue.
Et la diffusion, du coup, alors, comment ça se passe?
On l'apprend, on le découvre parce que, du coup, le concept du livre a été développé par Sabrina. Et en fait, au moment d'éditer le livre, enfin là où la question n'était plus que alors maintenant que c'est fait, comment ça se passe, on avait le choix de soit partir avec chercher une maison d'édition ou le faire seul. Vu là où nous en étions arrivés, on nous a conseillé de devenir maison d'édition.
D'accord, c'est une autoproduction en fait. C'est une
chose qu'on a faite. Voilà, on a du coup Idéographique Bretagne est devenue maison d'édition.
C'est l'association Idéographique qui est devenue maison d'édition et qui est éditrice.
D'accord, de ce format-là.
Et distributrice aussi.
Et distributrice.
Et du coup, distributrice, on commence. Enfin, voilà. Donc, il faut, au début, très, très, très concrètement, hein, on va toquer aux portes des librairies. Bonjour, madame.
Donc, vous prenez votre valise de VRP.
Eh ben, non. Non, mais je prends pas ma valise de VRP, mais par contre, je vais voir les gens parce que, comme on vient de l'entendre, c'est un livre. Qu'il est bon de présenter.
Oui, il est un peu spécial quand même, c'est un peu particulier. On ouvre un livre,
c'est
on a des origamis,
format particulier.
Il n'y a pas de texte, il est à la fin.
C'est ça.
C'est un peu particulier, il faut bien expliquer les choses. Et je crois que c'est aussi pour ça que tu mets en place des animations que tu vas aussi donc développer aussi dans les lieux de vente
du livre. Tout ça est venu, en fait, les choses, elles viennent au fur et à mesure. On fait les choses, j'ai l'impression, dans cette association. Et du coup, on réajuste toujours les propositions en fonction des retours qu'on a. Et donc
work in progress.
Oui, c'est ça. Donc bonjour madame la libraire ou monsieur le libraire, nous avons ce livre et puis en allant rencontrer également les bibliothèques, parce que nous, notre troisième axe, c'est donc l'accès à la lecture, et l'accès à la lecture principalement des personnes qui en sont éloignées. Par exemple, les bibliothèques, pour nous, c'est des partenaires un petit peu essentiels parce que justement, faire venir par le biais du livre des enfants dans une bibliothèque, des enfants qui n'y vont pas forcément, soit pour des raisons de langue, soit pour des raisons de déficience, soit pour plein de choses, soit familiales.
Et vous avez déjà commencé à en distribuer un petit peu ?
Il y a aujourd'hui une soixantaine de livres de vendus.
D'accord.
Une quarantaine en dépôt dans différentes librairies.
Et ça se passe comment quand vous arrivez à démarcher quelqu'un ? Parce que c'est du démarchage, on va pas se...
Oui.
Pouvoir placer votre produit, parce qu'à un moment donné, c'est le cas. Vous devez être avec eux pour leur expliquer les tenants et les aboutissants, je présume, parce que c'est pas comme disait le professeur, c'est pas forcément un bouquin lambda.
Il faut vraiment... en fait, par exemple, c'est quand on va dans des écoles, parce que je vais aussi dans des écoles, il n'y a pas besoin d'expliquer grand-chose.
Ah bon ?
Non, parce que...
c'est un besoin, finalement ?
Les professeurs des écoles voient direct l'intérêt du livre, d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue imaginaire, d'un point de vue... différents niveaux. Par exemple, l'année prochaine, à la rentrée prochaine, on va travailler dans une classe de grande section en maternelle. Parce que ce livre, il est aussi sur tous les attendus de la grande section, c'est-à-dire la motricité fine, le schéma narratif. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui ont été intégrées. Donc, les professionnels de l'éducation.
Oula, ça parle technique, là. C'est bien. Ça. Voilà. On voit la professionnalisme, là.
Du coup, les professionnels de l'éducation, on n'a pas besoin de... Enfin, voient l'intérêt du livre, pour leur... par rapport à leur travail.
D'accord.
On a des marionnettes, du coup, quand je fais une lecture comptée, il y a un temps de lecture, après, il y a un temps autour de tous les animaux marins qu'on rencontre dans le livre, parce qu'on rencontre de vrais animaux marins dans le livre, et puis c'est quelque chose un peu qui marche à tous les âges, les animaux marins, donc après on prend un temps, et ensuite on fait ensemble l'origami, les enfants font l'origami à leur rythme.
D'accord.
Toujours en écoutant l'histoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de concept pour revenir sur ce que disait Sabrina pour présenter. Il n'y a pas de concept. On ne parle pas de triangle, on ne parle pas de bord à bord, on ne parle pas de.
Ça laisse une.
C'est vraiment quand la feuille se plie, c'est parce que elle plie un coin pour pas se faire piquer par une méduse, puis elle plie un autre coin.
Elle se fait chatouiller par un banc de poissons.
Voilà, donc elle remonte une jambe. Enfin, voilà.
C'est pas une façon d'apprendre les origamis traditionnels au Japon. Il me semble qu'effectivement, on raconte une histoire quand on fabrique des origamis un petit peu compliqués. Donc finalement, tu utilises cette façon traditionnelle d'apprendre les origamis. Si je veux à vérifier, mais il me semble que c'est le cas.
Eh bien, c'est possible. C'est possible.
On réinvente.
Pour
la diffusion, moi, je voulais juste ajouter qu'on est aussi dans certains réseaux, quand même, puisqu'on a notamment Livre Accès, qui est un site internet qui est alimenté par Virginie Brevadi, qui référence en fait l'ensemble des livres en fonction de leur intérêt pour différents types de publics et différents types de difficultés, et qui a très bien référencé le livre avec une chronique sur une radio qui s'appelle Vivre FM, donc une chronique qui s'appelle Mes petites histoires. Donc on a aussi d'autres réseaux qui diffusent notre livre, on est forcément référencé dans tous les référencements réglementaires, je dirais, donc ce qui fait qu'on a des commandes qui arrivent un peu de partout. Hein, de Caen, de Genève, de Nancy.
Vous êtes aussi distribué par Leclerc, non ? C'est pas ce que tu m'avais dit une fois ?
Alors, on est, en fait, il y a le fonds Édouard Leclerc, Hélène et Édouard Leclerc de Landerneau.
Oui, maison mère. Ouais, là où ça a été
c'est aussi un lieu d'exposition.
Oui, c'est la fondation.
Voilà. Qui a en effet dans sa librairie les petites feuilles.
Ouais.
Ah, voilà. Top,
je précise quand même, parce que tu disais, Emeline, 60 exemplaires vendus, c'est énorme dans le domaine de l'édition, hein, pour un livre aussi particulier que celui-là.
Dans l'édition,
faut pas s'imaginer que les livres se vendent par centaines de milliers, hein, pas du tout. Surtout quand c'est des livres pointus comme ça, donc une soixantaine, 40 en librairie de placés. Donc c'est pour les auditeurs, hein, en fait, je précise quand même que c'est tout de même très conséquent.
Ouais,
c'est
une belle réussite. En 5 mois.
Bravo.
Oui, il est sorti en novembre et. Et voilà, et donc une centaine d'exemplaires sont partis. Préciser aussi ce livre, enfin pour donner toutes les infos, on le vend 24 €. Il a été entièrement imprimé, tout a été fait en France. C'était aussi pour nous important.
Ce qui est rarissime dans l'édition jeunesse pour enfants, enfin dans les beaux livres. C'est vrai que les libraires ont beaucoup de mal. Bah,
c'est vrai que c'est, pour revenir un petit peu sur la conception, c'est vrai que c'est un petit peu aussi notre patte, c'est-à-dire que moi, mon parcours, je l'ai fait en fait dans l'imprimerie, donc je connais très bien notamment toute la partie fabrication. Donc c'est pour ça aussi que les experts et les professionnels autour de nous ont dit bah non, mais vous avez déjà tout fait en fait, donc ça sert à rien d'aller chercher un éditeur, puisqu'en effet, moi j'ai fait toute l'étude de production en amont, et ça me tenait à cœur, j'ai toujours défendu ça, même en tant que graphiste.
Tu es graphiste à la base,
oui,
précisons-le.
C'est ça.
Oui, mais après on reviendra ça un petit peu plus loin dans l'émission.
En tout cas, pour moi c'était vraiment important de travailler en local. Et avec un vrai partenariat avec les imprimeurs et les différents fournisseurs du coin.
Quand tu dis local, c'est du très local breton ou c'est en France déjà?
Alors,
ce qui est très beau.
On a donc en fait là, il a été imprimé à Savenay, donc dans le 44,
en Bretagne.
Pays de la Loire.
Je suis pas très très bon joueur.
On va balancer le débat.
Ouh là là, le 44 ne fait pas partie de.
Voilà.
Enfin,
donc,
moi je dis ça, moi je dis rien.
Donc. À Savenay, dans le 44, en Pays de la Loire.
Voilà.
Il a été plié, collé, assemblé à
tous les petits pliages,
tous les pliages à l'intérieur, à l'Andivisio dans le 29.
Ah, des petits lutins.
Non, par un ESAT. Voilà, avec qui on est très content de travailler. Un ESAT, donc c'est les entreprises milieu protégé, on appelle ça aussi. Voilà, le papier vient donc de Limoges et le braille, c'est un ESAT aussi qui travaille à Lille. Voilà.
D'accord. Bon.
Donc c'est vrai qu'Emeline le notait, puisque on a fait ce choix-là de travailler en local, ce qui, mine de rien, vous voyez hein, le livre, il y a beaucoup de temps de manipulation. Pliage, collage, assemblage, qui coûte quand même assez cher en France. Et on a quand même choisi de le vendre à 24 €. Il nous revient à 20 €. Donc, on ne gagne pas grand-chose. Mais notre objectif, c'était aussi de le rendre accessible à tout le monde. Voilà.
On répète le titre, peut-être, du coup ?
Ouais.
Petite feuille, rêve de grand large.
Ah, voilà.
Et avec ça, on peut le trouver. On cherche sur Internet, petite feuille, rêve de grand large, idéographique.
Oui, le mieux, c'est de venir après des libraires. Dans toutes les librairies, en fait, on peut le trouver puisqu'on est référencé. Mais c'est encore mieux de venir vers nous directement parce qu'on aime bien, en plus, avoir des retours des utilisateurs.
Vous aimez bien les gens.
On aime bien les gens.
Incroyable.
Bien...
En tout cas, si je peux ajouter, Emeline en parlera certainement mieux que moi, mais on a un très très bel accueil des libraires.
Bon, bah ça c'est top. On arrive sur le premier interlude musical. Je ne sais pas qui c'est qui va commencer. Eh bien, je crois que c'est Emeline.
J'ai choisi de vous passer Les oiseaux de passage de Georges Brassens.
D'accord, bah écoute, on écoute ça. On se retrouve tout de suite sur RBG.
Ô vie heureuse des bourgeois, qu'avril bourgeonne ou que décembre gèle, ils sont fiers et contents Ce pigeon est aimé 3 jours par sa pigeonne. Ça lui suffit, il sait que l'amour n'a qu'un temps. Ce dindon a toujours béni sa destinée. Et quand vient le moment de mourir, il faut voir cette jeune oie en pleurs. C'est là que je suis né. Je meurs près de ma mère et j'ai fait mon devoir. Elle a fait son devoir, c'est-à-dire que honque. Elle n'eut de souhait impossible, elle n'eut aucun rêve de lune, aucun désir de jonque, l'emportant sans rameur sur un fleuve inconnu. Et tous ont ainsi fait vivre la même vie, toujours pour ces gens-là, cela n'est point hideux. Ce canard n'a qu'un bec et n'eut jamais envie ou de n'en plus avoir ou bien d'en avoir deux. Ils n'ont aucun besoin de baiser sur les lèvres, et loin des songes vains, loin des soucis cuisants, possèdent pour tout cœur un viscère sans fièvre, un coucou régulier et garanti disant « Oh les gens bienheureux, tout à coup dans l'espace, si haut qu'il semble aller lentement un grand vol, en forme de triangle, arrive, plane et passe. Où vont-ils, qui sont-ils, comme ils sont loin du sol? Regardez-les passer, eux, ce sont les sauvages. Ils vont tout leur désir, le vœu, par-dessus mont, et bois et mer et vent. Et loin des esclavages, l'air qu'ils boivent ferait éclater vos poumons. Regardez-les avant d'atteindre sa chimère, plus d'un l'aile rompu et du sang plein les yeux. Mourra, ces pauvres gens ont aussi femme et mère et savent les aimer aussi bien que vous mieux. Pour choyer cette femme et nourrir cette mère, ils pouvaient devenir volailles comme vous, mais ils sont avant tout des fils de la chimère, des assoiffés d'azur, des poètes, des fous. Regardez les vieux coqs, jeunes oies édifiantes, rien de vous ne pourra monter aussi haut que, et le peu qui viendra, deux à vous, c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux. Regardez les vieux coqs, jeunes oies édifiantes, rien de vous ne pourra monter aussi haut que, et le peu qui viendra, deux à vous, c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux.
De retour dans l'émission « Pense quoi ta sœur » avec nos invités de l'association idéographique Sabrina et Emeline qui nous reçoivent dans leurs locaux. On revient vers vous concernant justement l'origine de cette association. Qui c'est qui a eu l'idée? C'est toi Sabrina en premier? Comment c'est venu? Ah, c'est compliqué hein.
Vous avez 3 heures?
Alors, on a 3h30 pour être précis. Mais allez, c'est parti, vous avez 3h30.
Bon. Alors, l'origine de cette association, oui. C'est en 2008, avec un ami qui était aussi. Lui était imprimeur, moi j'étais graphiste.
D'accord.
Et on avait envie de faire une association qui proposait deux choses. La première, c'était de travailler autour de la couleur. L'impression des couleurs, la symbolique des couleurs, la fabrication de couleurs à partir de végétaux, et d'organiser des ateliers autour de ça. La deuxième chose, c'était de créer des espaces d'expression pour tout type de public, travailler avec nos outils visuels pour faciliter l'expression. La couleur, je pense que tous les deux ont partagé ça, d'aimer toutes ces questions autour de la perception visuelle, et puis c'était dans nos métiers aussi, travailler la couleur. Mais lui oui. En tant qu'imprimeur et moi en tant que graphiste.
Mais oui, c'est pas faux.
Après, moi, la perception des couleurs, ça a toujours été une de mes passions et un de mes sujets. Donc voilà, et puis je suis quelqu'un d'assez proche de la nature, donc de me dire, ouais, c'est chouette, on fait des ateliers sérigraphie dans un festival. Mais ces ateliers sérigraphie, finalement, quelle encre on utilise, pourquoi on ne fabriquerait pas notre encre?
Oui, d'accord.
Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée de travailler autour du pigment et de mettre en place des encres colorées végétales.
D'accord. Bah, on n'est pas à 3h30. C'est bien déjà. On a un petit peu avancé.
Ça, c'est l'origine, ouais.
Ça, c'est l'origine.
vraiment. Et donc ensuite, on a en fait fait des animations. Moi, j'ai rencontré assez rapidement Emeline en fait en 2009.
Ah bah j'allais en venir. J'allais poser la question. Comment voilà. s'est faite votre rencontre?
Alors comment s'est faite notre rencontre? On s'est rencontrés lors d'une réunion sur un tout autre sujet, qui était le sujet des jardins partagés.
Des jardins partagés.
Des jardins partagés. Ah oui, ah je crois oui, que ça fait l'objet de la 35e émission.
Mais il y en a à Pontivy, il y en a.
Ah bon? Oui, bah, ouais. Éclairer ma lanterne. Les journées. Bah, alors, je pense savoir qu'on partage quelque chose, c'est-à-dire les jardins. Donc chacun fait des cultures dans l'autre. Peut-être que c'est pas que ça, d'ailleurs. C'est très réducteur, mais
non, c'est pas. C'est
pas ça du tout.
C'est, si, si, c'est notamment ça. Mais voilà, c'est autour de cette notion de partage de jardin. Ouais. Donc on s'est rencontrés comme ça avec Emeline. On arrivait toutes les deux en fait sur le territoire, c'est-à-dire le territoire du Trégor. Et on s'est rencontrés à travers cette réunion. Moi, j'arrivais ici, j'avais toujours mon activité de graphiste et j'avais un peu, je nourrissais cette utopie hein, de vouloir vivre, de pouvoir vivre de la fabrication d'encre et de pigments. Et Emeline m'a dit, si tu veux, je te donne un coup de main. Et je lui dis, bah ouais, carrément. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble, à faire des animations, à créer des jeux.
Et il y a combien d'ailleurs, de temps
de ça? En 2009.
2009, d'accord.
Alors si on calcule, ça fait...
9 ans.
10 ans déjà.
10 ans bientôt.
Hein, ça fait 10 ans.
On est en 2000 quoi.
2019.
Ah ouais, tiens. Oh, le temps passe vite. D'accord.
Donc, et là, on a travaillé vraiment pour plein de situations et de publics différents. Toujours sur, enfin, sur cette thématique de créer des espaces d'expression.
Et c'est de là qu'est née l'association Idéographique, hein, ou pas du tout?
Alors, Idéographique est née en 2008. Hein. Et ah oui, 2008 oui. avec
Premier,
C'était une entreprise, je crois, au départ.
Non, c'était une association.
Aussi,
même pas.
Ça a toujours été une association.
Ça me rassure.
Sauf même que le professeur de 2008 trompe. À, je dirais, 2015 à peu près, 2015, on était toutes les deux en bénévole à faire des animations de droite et de gauche.
D'accord.
C'est ça?
Complètement.
Bon.
Soudain. Soudain. Voilà, donc, je vais essayer d'être... Bref.
Oui, on est arrivé à 3 heures.
Voilà.
Il reste une demi-heure.
Ok. Donc, en 2014, moi, j'arrête mon activité de graphiste, qui marchait plutôt bien,
ouais.
Pour prendre le temps de trouver réponse à une question que je me posais depuis un petit temps, c'est-à-dire comment je fais pour mettre mes compétences à disposition des publics qui sont en difficulté de lecture et de compréhension.
Ah ouais, ça c'est de la question ça. Donc.
C'est une bonne question. Hein
bah ouais, ouais, c'est pas mal. Ouais.
Donc je m'arrête en fait, j'arrête mon activité, donc voilà, juste pour situer. Donc,
qui marchait plutôt bien, je répète.
Qui marchait bien et...
Mais encore dans la région, tu venais...
J'étais dans la région déjà, oui, ouais. Ouais. Et donc juste pour situer, j'étais donc graphiste, donc je travaillais pour vraiment plein de gens très différents. J'ai fait de la formation aussi auprès des créateurs d'entreprises, notamment sur tout ce qui est outils de communication. Et je faisais des animations à côté, donc avec Idéographique.
En bénévolat.
En bénévolat.
Ah, tu vois, j'ai suivi.
Voilà. Donc pendant 2 ans, de 2014 à 2016-17 quasiment, j'ai baroudé un peu en tous sens. Je suis partie à la maison d'édition Les Doigts qui rêvent, qui fait des livres pour les enfants aveugles.
Okay.
J'ai pris le temps de développer notamment cette méthode de pas à pas en origami avec des adultes en déficience psychique. Je suis partie à Montréal, à l'Institut Nazareth et Louis Braille, en immersion dans la déficience visuelle, pour notamment travailler avec des chercheurs et faire en sorte de rendre accessibles leurs recherches pour des publics aveugles qui utilisent des logiciels ou des technologies pour accéder à des contenus sur Internet. Ça va?
Ouais, ça
vous n'êtes pas perdu?
C'est passionnant.
Voilà, j'ai un peu navigué, j'ai rencontré beaucoup d'éducateurs et j'ai repris un master en ergonomie. Et puis j'ai rencontré l'association Signes de Sens, qui est basée à Lille, et qui, eux, sont nés plutôt dans le monde des sourds. Ils ont développé énormément de choses par rapport au monde des sourds, un dictionnaire pour la langue des signes, des jeux. Aujourd'hui, ils sont sur le volet sourd et aussi sur tout ce qui est accessibilité des démarches administratives. Pour des publics qui sont en difficulté. Donc je les ai rencontrés et puis on a eu l'envie de monter une antenne en Bretagne. Moi je leur ai dit, ben voilà, je sais maintenant où je veux être et j'ai envie de me relancer en Bretagne, mais pas seule. Et donc eux, ils étaient un peu dans ces questionnements-là. Donc pendant un an, on a étudié pour cette opportunité-là, cette possibilité-là de monter une antenne bretonne. Finalement, fin 2017,
on s'est rendu compte que c'était pas possible. Donc avant, alors que je devais constituer la nouvelle structure en Bretagne, 15 jours avant on s'est dit que c'était pas possible. Oh. Donc j'avais 15 jours pour me dire qu'est-ce que je fais.
Tu t'es retrouvée toute seule?
Non, parce que j'étais pas seule dans ce montage en Bretagne. J'étais quand même, j'étais suivie. Moi, j'ai été quand même suivie assez vite par des gens qui me connaissent depuis longtemps, par aussi tout un comité de pilotage qui a suivi le projet, qui était composé d'élus, des gens de l'agglomération,
dont
de
Madame,
techniciens.
Madame la maire de Trémel.
Dont Madame Bourris, hein, la maire de Trémel, qui nous soutient vraiment depuis le départ.
Okay.
Et puis des techniciens aussi sur les montages de projets. Donc, je me suis pas retrouvée toute seule. Mais je me suis retrouvée sans le soutien, en tout cas, enfin sans la collaboration,
quoi.
En tout cas. Donc voilà, donc j'avais 15 jours et en fait, l'association hydrographique était en dormance donc depuis deux ans.
Et c'était là que tu t'es dit, tu vas relancer la chose.
Voilà, exactement. Ouais. Sachant que on avait quand même fait pas mal d'animations, ce nom était quand même connu sur le territoire. Et puis c'est un nom qui nous plaisait. Donc ça semblait assez logique qu'on reprenne en fait le nom, donc hydrographique Bretagne.
D'accord, ok, bah, on a à peu près toute l'histoire.
C'était très clair et finalement très court.
Et bah, on a mis 2h30 au lieu de 3h30, bah, écoute, c'est pas mal, merci Sabrina.
Il n'y a pas très longtemps, je t'ai vu travailler d'arrache-pied l'anglais. Incroyablement, tu travaillais avec une amie anglaise, tu t'entraînais au téléphone, tu t'entraînais à raconter plein de choses que tu nous racontes en français là, que tu pourrais nous raconter peut-être en breton.
Ouais, tu m'as dit qu'il parlait super bien français, anglais, pardon.
Pourquoi est-ce que tu as tellement travaillé l'anglais? Je crois que tu partais pour une conférence à Stockholm, me semble-t-il, où tu as raconté un peu ton travail autour de l'origami.
La classe, Stockholm.
C'était tactile reading.
Exactement. Donc ça démarre quand je suis à Montréal, à l'Institut Nazareth et Louis Braille.
Ah, on va à Montréal, on va à Stockholm.
On va d'abord à Montréal.
Ça va.
Ah,
bah,
ouais.
Ça va.
Ouais,
et
bah.
Et on est à Trémel.
Et on est à Trémel.
Bah oui.
Trémel, on
prochaine
voyage.
Fois, on la fera
c'est
de Stockholm.
Si loin.
On la fera à Stockholm.
Donc on part d'abord de Montréal, où j'emmène avec moi forcément mon travail sur l'origami, qui était déjà où j'avais déjà en fait fait ce prototype de pas à pas. Et à Montréal, très bon accueil de ce travail. Et la documentaliste en fait, de l'Institut Nazareth et Louis Braille, un jour m'appelle et me dit « Regarde ce qui se passe à Stockholm. Il y a la première conférence internationale sur tout ce qui concerne le braille et l'adaptation tactile des images en général pour des personnes aveugles et déficientes visuelles. » Elle me dit « Il faut que tu y sois. » Je dis oui, bon bref, j'ai un peu rigolé en disant oui, enfin avec mes petits papiers, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire là-bas. Et puis pour l'exercice, je lui dis bon bah écoute, c'est une bonne idée d'essayer de postuler, ça me fait un travail en anglais, moi je parle pas très bien l'anglais, donc au moins c'est un exercice, je le prends comme un exercice.
Ah, et puis des rencontres, des pistes de développement possibles et tout, ça va être...
Au départ vraiment je n'y croyais vraiment
pas, comme ça.
C'était quand même 350 spécialistes, moi je me voyais pas là-bas.
Dont Sabrina Morisson.
Ouais, c'est ça.
Ah oui, donc vous êtes partie des spécialistes, quoi, en fait. Donc oui, pas grave.
Donc en fait, j'ai fait cet exercice d'écriture et je l'ai envoyé. Et puis, bah, 3 mois après, on m'a dit, ben voilà, vous êtes retenue pour pouvoir venir présenter.
Ouais, c'est cool,
alors
ça.
Heureusement, j'avais quand même... j'avais été mesurée dans ma candidature puisque j'avais pris l'option pitch 2 minutes et pas conférence 45 minutes.
Ah, d'accord. Okay. Oui, j'ai fait mon
prudente,
petit curieux.
Prudente, tout de même. Prudente.
Je fais mon petit curieux, je suis un petit peu allé voir parce que tu as tenu un blog là-dessus, je crois. Hein, c'est ça?
J'ai un espace personnel, ouais.
Ouais, ouais. On m'a transmis un peu les infos pour justement de voir en quoi ça en était. Ouais, ça devait être impressionnant quand même.
C'était très impressionnant, ouais.
Mais ouais, ça devait être aussi...
C'était très riche. Il y avait des conférences dans tous les sens. C'était aussi intéressant parce que, en fait, moi déjà, je pense que j'avais quand même finalement ma place, mais c'était aussi bien de pouvoir côtoyer des grands pontes sur ces questions-là. Et puis en France, on a des grands pontes, on a des grands spécialistes. Donc voilà, c'est aussi des petits milieux. Et c'est dans ces endroits où on les rencontre. Donc c'est bien dit.
Oui, c'est ce que je voulais en dire en fait. T'as dû pouvoir rencontrer des gens que tu ne pensais pas pouvoir rencontrer, échanger et peut-être voir encore et te conforter dans l'idée de ce que tu fais et ce que tu fais actuellement, c'est important.
Ouais.
Et que ça valait le coup de 15 jours avant que Lille, ça se fasse pas, en fait, de dire mince, j'ai bien fait de continuer de persévérer.
Ah bah oui, bien sûr.
Bon, bah ça, c'est
mais ça, j'en ai jamais douté.
Et bah, j'espère bien.
Pour demander à Emeline, ça, j'en doute jamais.
Eh ben, on posera la question à Emeline quand tu seras pas là. Mais justement, on voudrait faire un petit point sur les bénévoles. Comme présent dans... Vous m'avez dit qu'il y en avait à peu près entre 15 et 20, c'est ça?
Oui.
Ouais. Et c'est quoi exactement? Ils font quoi?
Alors, ils font plein de choses très importantes. Par exemple, bah, pour le livre jeunesse dont on a parlé tout à l'heure. Bah forcément, ça ne s'est pas fait comme ça. Il y a eu beaucoup, beaucoup de prototypes réalisés par les petites mains habiles des bénévoles.
D'accord.
Qui ont plié je ne sais combien de petits papiers.
Et comment ils vous ont connu, ces gens-là? Parce que si ce sont des bénévoles, c'est des gens... C'est vos potes, c'est vos amis, c'est des gens qui se sont dit « c'est génial, je vais vous aider ».
Alors c'est en effet...
C'est des gens du coin. Hein.
Ouais, c'est des gens du coin. En effet, c'est des gens qu'on connaît, c'est nos amis. Après nous, là il y a des bénévoles qui viennent, on les a rencontrés sur les salons. Mmh. Voilà, c'est le salon de Plestin-les-Grèves à côté, le salon qui est organisé par Danstreger.
Il y a aussi des conseillers Pôle emploi.
Ah, c'est bien ça. Ah bah les v'là, bah, ils sont chez vous alors quand on n'arrive pas à les avoir pour trouver un emploi.
Ah, ah bah, d'accord. Désolé, okay. Hein, si vous voulez avoir des conseillers Pôle emploi, ils sont chez nous.
Ah bah super.
En train de plier des petits bateaux.
Ah bah. Et bah voilà, on les a trouvés.
C'est pour les détendre un petit peu.
Ah bah oui, bah, ils vont venir à beaucoup, alors préparez-vous. D'accord, et donc ouais, c'est beaucoup de connaissances et puis... Les conseillers Pôle emploi, a priori?
Bah, c'est des gens qui nous rencontrent et qui n'ont pas forcément l'usage, enfin, besoin de prime abord de l'association, mais qui ont du temps et qui ont en tout cas envie de donner un peu de leur temps
à
ce projet. On va peut-être parler d'un travail qui a été fait récemment, un parcours de visite. Pour personnes déficientes visuelles de la ville de Dinard, donc sur lequel a travaillé
là,
Sabrina.
On voit apparaître un certain nombre d'objets sur la table.
Ah oui, voilà.
Attention.
Alors, c'est le grand déballage, attention. Il y a un camion qui vient de se garer devant là. Ouh.
Alors, juste pour remettre en contexte, donc c'est la ville de Dinard qui souhaitait proposer un parcours de visite spécifiquement pour des personnes aveugles et déficientes visuelles. Et donc, on a travaillé avec eux pour que les guides touristiques puissent avoir un ensemble de supports adaptés pour justement ces personnes. Donc, moi, j'ai travaillé avec un monsieur qui est aveugle. On a travaillé aussi avec Architect, qui a fait toute une maquette de l'église anglicane de Dinard. Mmh. Et puis, une maquette, ouais. Une maquette qui est vraiment... qu'on peut toucher, en fait, de l'église, qui est mise à disposition, d'ailleurs, dans l'église. Et donc nous on a équipé les guides touristiques de différents types de documents. Donc par exemple il y a des planches qui sont imprimées en résine et en braille bien évidemment qui représentent le trait de côte. Donc qui représentent en fait le trait de côte de Dinard et le trait de côte de Saint-Malo.
D'accord, ça c'est ce que vous avez devant vous là, hein, c'est ça?
Oui, on peut vous les...
Ah bah je veux bien, ouais. Voilà. On va regarder ça.
Donc ça, c'est réalisé avec l'imprimerie La Ville qui est sur Paris.
Oui.
Donc c'est très intéressant puisque c'est vraiment une résine sur une plaque de PVC.
Okay.
Et puis on l'a imprimé aussi en couleur.
Alors ce qu'il y a de sympa, c'est qu'apparemment, c'est les mêmes plaques pour tous les visiteurs. C'est-à-dire que les non-voyants peuvent toucher la plaque qui est aussi la plaque écrite avec les...
Oui, voilà. On part toujours de cette idée-là, hein, qu'une personne qui a... Par exemple, une personne aveugle, elle ne va pas forcément être qu'avec des personnes aveugles. Elle peut être avec sa famille. Donc, c'est intéressant si les supports ils peuvent servir à tout le monde.
Ouais, là, parce que là, j'ai un exemple à donner, justement, parce que ça soit un petit peu visuel en radio. C'est pas facile.
Radiophonique.
Mais oui, c'était ça le terme. Déjà, je vais prendre le bon terme. Les hublots de Castelbrac. C'est où, ça, déjà?
C'est à Dinard.
C'est à Dinard, d'accord. Et donc, là, il y a une photo avec les fameux hublots. Et quand vous passez votre main, eh ben, c'est en relief et vous les sentez, en fait. C'est ça le...
Exactement. Oui, c'est ça.
D'accord. Ouais, c'est top, ça.
Voilà, et donc ça, en plus, ce matériau-là, si vous voulez, on a développé des supports en fonction de là
génial,
où...
Génial, les pierres aussi.
Et les pierres aussi,
oh,
ouais.
C'est top, ça.
Alors, pour revenir sur les pierres, en fait, il y a à Dinard, donc il y a des bâtiments qui sont faits avec un design qui a été fait avec des mélanges de granit et de béton différents.
Mais oui, c'était marqué dessus.
Et voilà, et donc c'est ce que l'on voit sur la plaque, c'est-à-dire qu'il y a des mélanges où il y a plus de béton et c'est plus lisse.
D'accord.
Après, il y a de moins en moins de béton, il y a de plus en plus d'éclats finalement de granit. Donc il y a un mélange, donc tactilement, c'est différent, c'est un peu plus granuleux.
Ben ouais.
Et puis, on passe aux pierres de granit entourées d'un béton lisse. Donc, tactilement, c'est pareil. On est passé de quelque chose... Donc, ça c'est... Ouais. ça, c'est le lisse, voilà, donc que le béton. Ensuite, un mélange, donc un peu plus granuleux. Et après, vraiment, on sent les pierres qui sont entourées de granit, de béton lisse.
Eh ben en tout cas, c'est super bien fait. En tout cas, je suis pas prêt de monter un mur. Hein. Comme tu peux constater, je fais pas la différence entre les trois. Mais ouais, c'est super bien fait. Je vais essayer de pas les casser, excusez-moi.
Et ça, c'est des supports qui sont à destination des guides touristiques, en fait. Ils le donnent aux personnes.
Alors,
est-ce qu'il y aura un affichage dans la ville de Dinard ?
Il y a plusieurs choses. Donc là, ces supports-là, qui sont sur des supports PVC, en fait, ils en ont un dans leur mallette et un qui est mis à disposition permanente.
D'accord.
Après, les supports qui sont, par exemple, dans l'église anglicane, on a tout un tas de supports aussi, de planches, qui vont reprendre les symboles évangéliques, par exemple, où là, ils sont réalisés sur du papier, ce qu'on appelle du swell touch, qui gonfle, en fait. Donc ça, c'est un papier qui est très utilisé pour les personnes aveugles. On le trouve très facilement.
D'accord.
Et donc, vu qu'on est à l'intérieur, on a préféré ce papier, ce support qui est quand même un peu moins coûteux et qui nous a permis de faire pas mal de choses. Donc,
Là, pour bien le décrire, donc là, il y a les formes, hein, il y a les formes.
Les statues, hein.
Les statues,
pense, ouais.
C'est les statues que ça représente. Et il y a du braille au-dessus.
Oui.
Voilà.
C'est imprimé en relief, en fait. Comme la côte de Dinard, en fait, on peut suivre les contours de l'ange et d'un volatile.
Oui.
Alors c'est les symboles évangéliques de chaque saint.
D'accord. Apparemment, c'est quoi ? C'est les couleurs ici qui sont représentées ou tu fais des différenciations de couleurs ?
Là, on a fait en sorte que ça soit relativement épuré, puisqu'on sait que c'est une visite, donc les gens vont avoir beaucoup d'informations à comprendre.
Ouais.
Et donc, on a fait en sorte qu'il y ait une compréhension très rapide des éléments. Donc, vous voyez, en fait, par exemple, si on reprend l'aigle, même l'aigle ou l'ange, enfin, en fait, on ne dit pas ange, dans ce cas-là, on dit homme ailé. On a c'est à chaque clair, fois ouais. la même charte graphique, si on veut, enfin le même design, c'est-à-dire que le corps est entouré d'un filet et fond sans texture.
Ouais, qui sort le relief. On sent que la ça,
on sent
ça,
que
la
le contour ouais, ouais. en relief. Les ailes sont exactement de la pareil, la même texture à l'intérieur.
D'accord. Pour bien déterminer que ça,
pour
ce sont des ailes.
Bien déterminer. Donc là, je vous ai mis aussi le lion et le taureau. Donc vous voyez en fait les ailes. Il n'y a que l'aigle qui a des ailes un peu différentes, mais sinon, entre l'homme ailé, le lion et le taureau, on a exactement les mêmes ailes, les mêmes
texture,
formes.
Ouais. Ouais.
Texture et forme. Pareil, on a tout le temps le corps qui est juste un filet en relief.
Ouais.
Les ailes avec une texture et un élément distinctif, c'est-à-dire la tête du taureau et ses cornes, la crinière du lion, la tête et les mains de l'homme ailé et le bec de l'aigle sont mis dans une texture pleine, donc entièrement gonflée. Voilà. Donc on a joué en fait là-dessus sur le fait qu'il fallait qu'il capte très vite l'information et donc d'avoir une répétition
d'un
point de repère.
Pour les auditeurs qui voudraient voir à quoi ça ressemble, sur notre site internet, il y a tout.
Vous pouvez nous
rappeler
le site
idéographique. Org.
Alors, il n'y a que le K qui change par rapport à... Oui. Voilà, c'est ça. Idéographique, PH, IK.
Ah oui, IK, oui, parce que moi, j'aurais écrit QE à la fin, forcément. C'est ça que tu voulais dire.
Absolument.
À la bretonne.
À la bretonne. Ah ben oui, parce que vous faites bien, vous faites bien. D'accord. Eh ben écoutez, c'est super, ça. Du coup, on arrive à la deuxième interlude musicale. Alors, j'avais posé la question de tout à l'heure à Emeline pour le choix musical. Ça va être à ton tour, Sabrina.
Alors, on va écouter Ayo.
Ouais.
Et le morceau, c'est Maybe.
Eh ben, on écoute ça. À tout à l'heure.
Thank you. I know it's still my love for you. Won't let me go. See what I give and what I get. There's something wrong, and you know that. Maybe I'll be better off without you.
Avec Sly et son orchestre sur Radio Brodunet.
Elle en pense quoi, ta sœur ?
Iris, elle en dit quoi ?
Pour tout vous dire, notre professeur a mis un peu de temps à nous faire comprendre ce qu'était le beau métier de nos invités, enfin nos hôtesses plutôt, je devrais dire. Moi, je me le suis résumé comme ça : trouver des astuces, des moyens pour tout rendre accessible à ceux qui n'ont pas les filtres ou les codes habituels. Alors je me suis dit, mais en fait, mais moi aussi, tous les jours, j'ai besoin d'un coup de main pour décoder tout un tas de choses qui ne me sont pas naturelles. Par exemple, j'ai très peu de clés pour comprendre la musique. Enfin, si, j'en ai bien une ou deux, mais je suis très loin d'avoir tout le trousseau. En gros, je me suis arrêtée à la flûte à bec et au sourire encourageant, mais néanmoins crispé, de ma mère quand je lui montrais mes talents de collégienne sur l'hymne à la joie. Je suis donc infiniment reconnaissante à toutes les bonnes âmes capables de faire œuvre de vulgarisation et de pédagogie. C'est ce sentiment réjoui qui m'a animée lors d'une visite à la Cité de la Musique et à la Philharmonie de Paris. Pour ceux qui ne voyagent pas souvent à l'étranger, cette Cité de la Musique fait partie du fascinant complexe de la Villette qui a remplacé les abattoirs du nord-est parisien. On y trouve une foultitude de salles de spectacle et de musées, dont la Philharmonie. La Philharmonie 1, c'est la grande salle de concert Pierre Boulez, conçue par l'architecte Jean Nouvel et inaugurée en 2015, après 7 ans de travaux, quelques centaines de millions d'euros dépensés et d'inévitables controverses. On peut y voir une colline de métal qui contemple les alentours, ou une grosse bête écailleuse et rutilante roulée en boule. Ça, c'est si on est dans ma tête. À l'intérieur, vous entrez dans le vaisseau spatial de croisière du cinquième élément. C'est colossal, aérien, étrange, mais absolument pas poussiéreux ni intimidant. Les balcons sont comme suspendus au-dessus des musiciens. En l'occurrence, Iveta Apkalna, artiste lettonne qui faisait rugir le monumental orgue dont la monstrueuse mécanique occupe tout un pan de la salle de concert. J'avais l'impression d'être au tréfonds des entrailles d'un dragon chanteur dont on voyait battre le cœur. La diva Pavalaguna de Luc Besson n'aurait pas renié cet écrin. La Philharmonie 2, c'est le nouveau nom de la Cité de la Musique, de 20 ans l'aîné du gros dragon doré. On y trouve un musée où vous pouvez voir, toucher et surtout écouter une collection inouïe, jeu de mots, d'instruments anciens, rares ou lointains. Est-ce que ma vaillante flûte à bec savait que parmi ses semblables, il y avait l'archilute, l'octobasse, le théorbe, la virgina, la quinte, le térémine et le cristal bachet? En tout cas, moi, je l'ignorais totalement et je l'ai appris donc dans ce magnifique musée. Donner à voir l'insoupçonné, voilà une belle réussite de ce musée. On trouve aussi à la Cité de la Musique une plus petite salle de concert, 900 petites places. Hein. C'est intime face aux 2500 de la voisine à Écailles. J'y ai découvert un autre organiste de renom, Cameron Carpenter, et son ITO. Ce n'est pas le nom de son vaisseau spatial, mais presque. Il a conçu cette International Touring Organ, ITO, un orgue déplaçable de salle en salle et non pas fixé à un lieu sacré ou prestigieux. Sa volonté est aussi militante et affirmée que son look de bad boy, donné à jouer et à entendre l'étendue et la variété du répertoire de cet instrument. Mission réussie avec l'analphabète que je suis. J'ai découvert, fasciné, qu'un orgue, c'est un orchestre symphonique entier au bout des doigts du musicien. Et des pieds. Cameron Carpenter joue les variations Goldberg de Bach et la symphonie numéro 2 d'Howard Hanson avec des chaussures de flamenco. Et ça, c'est la classe. Vous pouvez le constater par vous-même en vous jetant sur ses albums ou sur la rediffusion de ce récital du 24 mars dernier, disponible en replay jusqu'au mois de septembre sur arte.tv.
Merci Iris pour ce petit billet, encore une fois fort intéressant. Ça vous a parlé à nos invités, ça, ce genre de choses par rapport au billet de Iris, tout simplement. Il y a des similitudes, des choses que vous pouvez voir.
Oui, c'est sûr, c'est toujours très intéressant quand, quand les musées notamment ont cette démarche d'accessibilité, quelle qu'elle soit, et quand on travaille sur cet aspect multisensoriel. Et c'est vrai qu'on remarque souvent qu'on est dans l'adaptation, et notamment dans la déficience visuelle où on va adapter des choses de voyants qui ont été faites par des voyants pour des voyants, mais qu'on est rarement dans la conception accessible. Et là, quand on entend des expériences comme ça ou des initiatives d'accessibilité et où est proposé un axe multisensoriel, ça c'est vraiment intéressant parce que pour le coup, on peut rassembler un large public autour de ces arts différents, hein, qu'ils soient sonores ou visuels.
Et ça sert à tout le monde.
Alors, vous avez une actualité brûlante actuellement. Vous êtes en pleine promotion d'une certaine mallette, me semble-t-il.
La fameuse mallette.
La fameuse mallette.
Alors.
Voilà, donc tout à l'heure, je vous ai parlé du deuxième axe qui est l'axe apprentissage.
Oui.
Et donc, en effet, sur cette même méthode de pas à pas tactile et manipulable en origami, on a donc une mallette qui s'appelle OSA, l'origami au service des apprentissages, qui va bientôt sortir. Et en effet, on a lancé là un financement participatif avec la plateforme Kengo. Donc vraiment, je vous invite à y aller et peut-être à participer à ce financement.
Kengo, et donc Kangoo, qui n'est pas du tout la même chose. Kangoo est une voiture, c'est Kengo, c'est ça? Combien qu'on précise bien, Kengo.
Voilà, Kengo, K-E-N-G-O, ouais, qui est une plateforme, qui est kengo.bzh,
ah oui,
qui est une plateforme en fait bretonne de financement participatif.
D'accord. Et donc,
alors,
elle est ouverte, cette plateforme déjà, là, ou ça va être le cas?
Le financement est déjà
oui,
ouvert.
Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire.
Le financement est ouvert. D'accord. On peut y aller.
On peut
et
y
en
aller.
Cours.
À vos clics.
Cours.
À vos clics. Allez, c'est parti. Et donc, du coup, cette fameuse mallette, oui.
Alors, cette fameuse
vous
mallette.
L'avez avec vous ou pas? Ah, bah oui, la voilà.
La voici.
D'accord, ok.
Donc, cette mallette.
Sacrée mallette.
Cette mallette a pour objectif vraiment d'introduire certaines notions scolaires. Et en tout cas, de redonner goût à l'apprentissage, de recréer un contexte d'apprentissage où le jeune va être dans une situation rassurante, de concentration. Et donc, on reprend en fait cette utilisation de pas à pas en origami et on va utiliser l'origami comme support d'apprentissage. Donc, pour notamment des notions scolaires plus ou moins complexes, abstraites, où on va inviter en fait l'élève être d'abord dans la manipulation avant d'être dans l'intellectualisation ou la compréhension de concepts abstraits. C'est-à-dire qu'en général, on part d'abord de l'abstraction. C'est-à-dire qu'on va d'abord parler aux élèves de triangle. Mais un triangle, bah pour certains élèves, ça ne veut rien dire.
D'accord, parce que en fait là, c'est ce que tu es en train de nous montrer, en fait, ce que les auditeurs ne voient pas. Donc c'est que tu, ouais, tu fais défiler un peu les pages, un peu comme dans le même concept que le livre.
C'est le même principe.
D'accord. Et en fait, c'est voilà, comme tu dis,
donc
à base
des origamis,
de
des origamis voilà. collés sur des feuilles de classeur.
Donc c'est chaque étape en fait d'origami. Donc les élèves en fait par principe, ils vont avoir différents types de planches comme ça et différents manuels
ouais.
où ils vont être d'abord dans la manipulation. Ils vont venir, vous remarquerez, sur les manuels, on n'a pas de texte du tout.
Ouais, tout
alors là,
fait,
pour
ouais.
le coup, on n'a carrément pas d'illustration, on n'a pas de texte.
Mm-hmm.
Donc, on va proposer en fait, à l'élève d'aller chercher par lui-même la technique de pliage
ouais.
en manipulant celui qui est en face de lui. Donc là, on n'est pas du tout dans mettre des mots dessus.
Un
on
exemple quand même, parce que là, on est sur une page ouverte, là, où il y a un triangle
ouais.
des deux côtés. Ah oui, là c'est un peu plus poussé en effet.
En fait, c'est étape après étape.
Ah ouais, d'accord. OK.
Chaque page est une étape.
Et chaque étape matérialise en fait des lignes géométriques finalement, mais on les appelle pas encore géométriques, c'est ça l'idée en fait.
Voilà, on n'appelle pas d'ailleurs.
C'est ça.
Bah, on l'appelle pas.
On fait.
Voilà.
D'accord.
Voilà, c'est mieux.
Pour concrétiser ces lignes-là, voilà, sans concept quoi.
On éprouve en fait.
Voilà, on a eu un premier pliage très simple, la feuille voilà. en deux, c'était un triangle. Après, on redéplie, on plie en deux le triangle, etc., etc. Donc c'est de plus en plus complexe, c'est ce qu'on voit en tout cas.
Et là, si on se base sur celui-là, là, tiens, voilà, ça a l'air d'être un carré avec plusieurs triangles à l'intérieur. Donc on l'appelle pas, mais on va l'appeler comme ça. Et du coup, on l'ouvre. Comment ça se passe? Une petite démonstration?
Non, en fait, c'est vraiment le même principe que le
livre.
Le livre, d'accord.
Le livre.
Ouais.
Vous avez votre papier.
Ouais.
À la base, vous avez votre papier devant vous et vous allez regarder.
À chaque page, il se passe quelque chose.
D'accord. Et donc,
oui. Vous voulez le faire?
Je vais laisser Riz le faire, tiens.
Oui.
Moi, je vais encore tout casser, je me connais.
Il faut que tu le fasses avec un papier séparé.
Ah bon,
c'est ça.
En fait, ce sont des modèles.
C'est ça. Ce sont des modèles qui représentent le papier qu'on a dans les mains.
Oui.
Et à chaque page, un pliage.
Ouais.
Donc, à chaque page, on
avance.
On avance et puis on...
Donc voilà, viens, nous tend ouais.
un
papier.
On a une proposition.
Et du coup, à quel moment arrive l'abstraction, le concept finalement? Parce que est-ce qu'il revient le concept du triangle, le concept du carré, etc. À quel moment ça arrive finalement?
Tu fais la même chose.
Bien sûr, donc une fois que les élèves en fait, sont habitués à tous ces pliages, eh bien, à ce moment-là, on va commencer à leur proposer des exercices où on va venir manipuler tous ces concepts.
Mm-hmm.
Donc on a aussi... des manuels où c'est une pyramide qui est fabriquée, etc. Donc, il y a, dans le carnet pédagogique qui se trouve dans la mallette, on a développé tout un tas d'activités avec des niveaux différents, des notions à voir différentes, des matières aussi différentes, que ce soit dans la géométrie, le schéma narratif, etc. Et donc, les enseignants vont pouvoir utiliser en fait, cette familiarisation avec l'outil pour aborder, pour introduire des notions comme les fractions, le quart, le demi.
D'accord. Donc le mot arrive après.
Le mot arrive après.
Une fois qu'on apprend les figures de base de ces origamis.
C'est très simple en fait. Une fois que la personne elle est familière avec cette manipulation, c'est beaucoup plus facile de lui dire bon ben voilà, ce pliage-là, on va l'appeler le pli du triangle. Et là, à ce moment-là, vu qu'il n'est pas dans l'effroi ou la peur de ne pas comprendre, il est dans quelque chose qu'il connaît, qui lui est commun, qui lui est familier, eh bien, il va pouvoir poser le mot en fait, triangle, carré, médiane, etc., sur quelque chose qui lui est familier. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est qu'il peut enfin se créer une bibliothèque avec ses propres repères.
D'accord. Et là, donc, Chris, toi, tu es en train de faire tout le livre, en train de refaire les mêmes schémas.
Ah, c'est ça. En fait, c'est ça. Quand on blogue, parce que souvent, quand on fait des origamis, à un moment, en fait, on a des dessins et puis on essaye de reproduire les dessins. Et puis, il y a toujours un moment où on ne comprend pas le dessin. Et alors là, ce qui est très intéressant, c'est que je vais pouvoir manipuler justement l'origami pour comprendre comment j'arrive au dessin. C'est très, très malin.
Ah oui, j'ai compris, en fait.
C'est ça.
Il y a du temps, au bout d'une heure et demie.
Là, ça ressemble à ce que je viens de faire. Et puis là, j'ai compris qu'il fallait que je plie un petit peu comme ça, hein, c'est ça.
Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que, pour les coups, les élèves, en fait, sont acteurs de leur apprentissage. Bien plus.
Ah mais
ils trouvent leur solution en fait eux-mêmes.
Exactement.
Ça. Bah ça fonctionne parce que moi j'ai compris. Donc,
Et en plus ils sont dans une certaine... Ils prennent confiance puisqu'ils réussissent à aller jusqu'au bout de quelque chose.
Du coup vous nous rappelez peut-être comment... Vous êtes en pleine promotion, donc qu'est-ce qu'il faut aller voir alors pour cette mallette?
La mallette s'appelle Osa, l'origami au service des apprentissages.
Ouais.
Et vous allez pouvoir trouver la mallette sur le site de Kengo, kengo.bzh. Ou sur notre site internet, vous allez sur la page donc, idéographique, onglet conception pédagogique. Et là, vous trouverez toutes les informations pour nous soutenir.
Bon, bah, c'est super, merci. On va arriver à la troisième interlude musicale. Donc là, c'était le choix, encore une fois, de Emeline.
Oui.
Emeline, tu as choisi quoi cette fois-ci?
Alors, Ayeb.
Ayeb, d'accord.
Extrait de l'album Interzone.
Donc, on écoute ça et on reçoit la mère de Très Belle, Madame Boris Thérèse. Thank you.
Alors c'est moi, professeur Tournesol, qui ai eu la chance par tirage au sort et l'honneur donc d'interviewer Thérèse Bouris, madame la maire de Trémel. Bonjour madame la maire.
Bonjour.
Très bien, vous m'entendez bien ?
Oui, je vous entends bien.
Parfait. Alors, je voulais vous demander, nous avons la chance d'être reçus actuellement par Sabrina et Emeline de l'association Idéographique, donc dans les locaux de la Maison de l'économie sociale et solidaire. Donc, je voulais vous en demander un peu plus sur cette notion d'économie sociale et solidaire.
L'idée, d'abord, notre petite commune n'a plus de commerce, n'a plus de lieu de rencontre, à part les associations, évidemment. Alors, l'idée, c'est d'avoir un lieu de rencontre où chacun puisse venir s'exprimer et aussi travailler dans des locaux, sans dégager un bénéfice. Hein. C'est une l'économie sociale et solidaire,
c'est un but non lucratif.
But, c'est non lucratif, voilà. Hein, en fait. Voilà. Quand Sabrina est venue me demander s'il y avait un local à disposition dans la commune, notre ancienne mairie se prêtait tout à fait à cette activité-là.
Très bien. Donc en fait, la proposition de Sabrina autour d'Idéographique était la première pierre, on va dire, d'un gros projet. Est-ce que tout de suite vous avez imaginé cette maison de l'économie sociale et solidaire, donc ouverte à de nombreuses autres activités et rencontres ?
Oui, voilà. Donc dans un premier temps, nous avons restauré l'ancienne mairie. Mais c'est un bâtiment donc qui est mitoyen avec un autre bâtiment qui accueille l'agence postale communale et la bibliothèque. Et dans ce lieu, nous avons aussi un dépôt de pain. Donc l'idée, c'est de rénover ce bâtiment. Au rez-de-chaussée, de faire un bel espace bibliothèque avec toujours notre dépôt de pain. Et dans le futur, pourquoi pas un café, un genre de café citoyen avec un lieu de rencontre pour lecture, discussion et consommer bien sûr un café, chocolat, pour que les gens puissent se rencontrer et même échanger sur les livres qui ont été lus. Voilà, et à l'étage, il y a beaucoup d'espace aussi, et l'idée, c'est de faire des bureaux pour accueillir des personnes qui souhaitent faire du travail à domicile, quoi. Enfin, le style coworking, une mise à disposition aussi, moyennant une location quand même, mais très modeste, qui permettrait aux gens d'avoir une activité sans avoir un investissement d'ordre mobilier.
Alors nous avons effectivement appris que le tarif était effectivement très très modeste. Vous accueillez donc le temps de l'installation Idéographique pour un an donc sans aucun loyer. Puis après le loyer est très très modéré. Je crois que c'est 300 euros par
300
mois.
300 euros.
Voilà, et ce sera à peu près le même esprit évidemment pour toutes les initiatives qui vous rejoignent.
Tout ce qu'il y aura comme activité dans ce bâtiment.
Très bien, et il y a déjà beaucoup de demandes. Vous avez déjà des projets en tête ?
On a des pistes.
D'accord.
Oui.
On n'en saura pas plus ?
Non, parce que la restauration n'a pas commencé, alors ça va quand même être un projet, enfin une restauration qui va durer quand même un bon moment. Donc, bien sûr, quand les gens ont un projet, il faut quand même, il faut que ça se réalise assez rapidement. Alors, je préfère ne pas en parler actuellement. Hein.
Très bien, je comprends tout à fait. Voilà. Tout à fait. Il faut se laisser le temps, bien sûr, d'installer tout ça.
Voilà.
Et comment est-ce que la population de Trémel a accueilli ce projet ?
Elle a très bien accueilli le projet. C'est maintenant un lieu où on se rencontre. Bon, Sabrina et Emeline travaillent là. Et puis à côté, nous avons aussi le fameux dépôt de pain à la poste qui fait que les gens viennent à la poste mais pour acheter le pain. Et bon, l'agence postale communale fonctionne mieux également. Et donc c'est un lieu de vie qui se développe dans notre petite commune. Parce qu'il faut rappeler que Trémel, c'est une commune de 400 habitants. Qui n'a plus de commerce, mais qui est quand même bien situé à 2,5 km de l'axe Paris-Brest, à 7-8 km de la mer. Donc c'est quand même une petite commune qui est intéressante.
Et oui, nous avons déjà bien observé que la présence idéographique suscitait la venue déjà de nombreux bénévoles. Aussi, nous avons vu déjà presque un espace de coworking dans idéographique, oui. Puisque des gens viennent déjà utiliser un
tout
peu Internet,
fait.
Etc. Donc, c'est déjà quelque chose, oui. Tout à fait. Et ce n'est pas souvent qu'on voit ça dans de toutes petites communes comme la vôtre.
Ben voilà, c'est une belle réalisation.
Bon, ben je vous remercie beaucoup, Madame la maire, d'avoir répondu à ces quelques questions. On va retrouver nos deux invités, puisque l'interview continue en ce moment.
D'accord.
Merci, au revoir.
Au revoir.
On remercie la maire de Trémel d'avoir accordé un peu de temps à cette interview. On tenait aussi à vous remercier, Sabrina, Emeline, de nous avoir reçus, d'avoir pris du temps pour nous expliquer ce que vous faites. C'était génial, j'ai appris plein de choses. Ça me donne encore plus envie de continuer, de voir l'évolution de tout ça. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Plein de bonnes choses, on va déjà vous souhaiter ça.
Mais oui, bien sûr, plein de bonnes choses. Que l'association, elle vive le plus longtemps possible, qu'il y ait de belles éditions et voilà, qu'on puisse en tout cas faire en sorte que le plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à l'information, au savoir, à l'apprentissage, à l'imaginaire du livre. Voilà.
Mais en fait, l'émission n'est pas finie parce qu'on arrive sur la dernière surprise du chef, exactement. C'est le dernier mot de l'invité. Donc, Emeline et Sabrina, on vous laisse à l'antenne pour dire ce que vous pensez ou ce que vous souhaitez. Allez, c'est à vous.
Avec Sly et son orchestre sur Radio Broadway.
Elle en pense quoi, ta sœur ? Et l'invité, il en pense quoi ?
Alors, nous, on est très contents que vous soyez venus jusqu'à Trémel. Donc, merci beaucoup. Et donc, pour le mot de l'invité, on va profiter de ce moment-là pour donner notre avis un petit peu et expliquer qu'est-ce qu'on défend aussi à idéographique. C'est-à-dire que nous, on défend le potentiel des gens. On défend que le fait que la différence, c'est une vraie porte vers plein de richesses. Voilà, on accable beaucoup aujourd'hui les parents, les enseignants, que les enfants aient de plus en plus de troubles, ont de plus en plus de différences, de difficultés, de perturbations, etc. Eh bien nous, on se dit que quand il y a une différence, eh bien tant mieux, parce que tant mieux, ça veut dire que derrière, eh bien il y a du potentiel pour aller dans l'imaginaire, il y a du potentiel pour aller dans d'autres choses, et justement d'être riche de toutes ces différences.
Pour réfléchir autrement, du coup. Ces enfants, ces adultes, ils sont pas tout seuls et nous, notre proposition, elle est d'être dans des temps collectifs où justement les différences de chacun sont aidantes pour les uns et les autres et permettent de trouver de nouveaux chemins.
Voilà, alors réjouissons-nous que les humains ne soient pas des robots et qu'ils soient tous différents.
Et ben voilà, on arrive à la clôture de l'émission. En tout cas, encore une très très belle émission. Et puis, c'était sympa de venir...
À Trémel petit...
ouais. Ouais.
Ah ouais, notre petit voyage du dimanche, super.
Merci, le professeur, parce que c'est quand même ton idée à la base, de nous avoir rencontré ces belles personnes. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses, très intéressant. On mettra tous les liens possibles, imaginables, sur les pages Facebook et tout ce qu'on peut, sur la radio RBG, etc. On va rappeler aussi qu'il y a une... alors, c'était quoi ? Pas une cagnotte, hein, ça se dit pas comme ça.
C'est un financement participatif.
Hein, ouais.
Kengo.
Kengo, voilà. Et on vous remettra tous les liens. Encore une fois, merci à eux de nous avoir reçus. Et puis, on va déjà parler de la prochaine émission avec les prochains invités.
Les vermines ?
Oui, c'est ça.
De Vannes.
On passe complètement dans un autre univers. Là, on va parler avec leur entraîneur, Johan. Un petit peu de leur discipline, en quoi ça consiste, et puis de connaître ce sport, parce que moi, rien, je le connais pas du tout, donc ça sera l'occasion.
Le roller derby, oui,
ah,
ce
c'est
sport.
Ça. Bah oui, si je le dis pas, c'est pas gagné non plus. Donc oui, encore une fois, le roller derby, les vermines de Vannes, prochaine invité avec Johan, leur coach. Merci encore à l'association idéographique de nous avoir reçus. Je vous souhaite une bonne soirée, plein de bonnes choses. Kenavo à vous.
Kenavo.
Ciao.
Elle en pense quoi ta sœur, avec Sly et son orchestre.
C'est tous les mois sur RBG. Retrouvez-nous sur internet radiobraise.bzh. Puis faites-nous vos suggestions, donnez-nous votre avis. Elle en pense quoi ta sœur @gmail.com.